BW. Vue d'Allemagne.
Il y a 150 ans, s'est tenue à Berlin la première session du Reichstag, première assemblée parlementaire de l'histoire allemande à être élue au suffrage universel, premier pas aussi vers la participation des citoyens à la vie politique. En deuxième partie de ce magazine, la lutte citoyenne passe aussi par la coiffure. Au Brésil, de plus en plus de femmes afro-brésiliennes ont entamé une transition capillaire et privilégient désormais les cheveux au naturel pour affirmer leur identité. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Aujourd'hui, le Bundestag est la carte de visite de la démocratie allemande moderne. 709 députés élus siègent actuellement dans le bâtiment historique du Reichstag à Berlin, dont la salle plénière est couverte d'une immense coupole de verre, symbole de la transparence politique. Les députés d'aujourd'hui ont pour mission de légiférer, de contrôler le travail du gouvernement et de débattre des orientations politiques. Ils élisent aussi le chancelier ou la chancelière fédérale tous les 4 ans. Lorsque le premier Reichstag élu de l'Empire allemand a tenu sa session inaugurale le 21 mars 1871, il y a donc 150 ans, ces 382 représentants démocratiquement élus n'auraient même pas imaginé en rêve avoir des pouvoirs aussi étendus. L'Empire a été fondé quelques semaines plus tôt, en janvier 1871. À sa tête, l'empereur Guillaume Ier, également roi de Prusse. La constitution impériale lui accorde de larges pouvoirs. Il dirige les affaires étrangères, commande l'armée et l'administration, et il a désigné Otto von Bismarck comme chancelier. C'est celui-ci d'ailleurs qui est à l'origine de la rédaction de la constitution impériale. S'il n'en tenait qu'à ces deux-là, les habitants de l'Empire devraient rester de simples sujets. Mais la révolution de 1848 est passée par là, et Guillaume Ier et Otto von Bismarck ne peuvent pas ignorer les velléités démocratiques des citoyens. C'est ce qu'explique l'historien Christoph Nonn de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf.
Il leur aurait été difficile de gouverner tête baissée parce qu'en Prusse aussi, il y avait déjà un Parlement et une Chambre des représentants depuis 1850. Ils n'ont simplement pas osé. Dans le fond, la révolution de 1848 a été un signal assez clair que ça ne pouvait pas marcher sans une certaine participation de la population à la politique.
En 1871, la participation des citoyens est donc assurée par le Reichstag, élu au suffrage universel. À l'origine, Bismarck l'a conçu comme une simple chambre d'enregistrement. Ainsi, le Reichstag a l'initiative des lois, mais celles-ci peuvent être bloquées par le Bundesrat. Cette assemblée qui réunit les représentants des 25 États de l'Empire, principalement des nobles, est largement contrôlée par la Prusse. Elle est censée agir comme un rempart conservateur pour limiter les aspirations démocratiques du Reichstag. L'empereur peut d'ailleurs dissoudre le Reichstag à tout moment avec l'accord du Bundesrat. Mais la révolution industrielle et le développement économique et social des deux dernières décennies ont également donné un élan à la bourgeoisie qui veut désormais avoir son mot à dire, explique encore Christoph Nonn.
L'industrialisation, tout d'abord, a affaibli les anciennes élites aristocratiques rurales et renforcé les nouvelles élites bourgeoises industrielles. Les mouvements de masse des ouvriers de l'industrie, l'ensemble du développement économique, la politisation fondamentale qui a eu lieu dans l'Empire, tout cela conduit la population à prendre de plus en plus confiance en elle et à exiger ensuite beaucoup plus d'influence à travers ses partis.
Alors de quelle population parle-t-on ici? Certes, l'élection du Reichstag se fait au suffrage universel, mais cela n'a rien à voir avec les élections d'aujourd'hui. On ne parle même pas des femmes qui n'auront le droit de vote qu'après la Première Guerre mondiale. À l'époque, seuls les hommes de plus de 25 ans sont autorisés à voter, mais pas tous. Les pauvres sont exclus du vote. Ils sont considérés comme influençables car recevant des aides de la part des communes. Les soldats en service militaire n'ont pas non plus le droit de participer. Explication de l'historien Andreas Bifang. Il est membre de la commission du Bundestag sur le parlementarisme.
Les raisons sont liées à l'idée qu'on avait de la maturité politique des électeurs masculins. Cette conception de la maturité impliquait une indépendance économique et aussi de ne pas être soumis à une direction militaire. Les soldats ne pouvaient pas donc exercer ces droits civiques afin de ne pas introduire de conflits politiques dans l'armée et inversement afin de ne pas être dépendants des ordres.
Le système de vote majoritaire et la division des circonscriptions profitent par ailleurs aux conservateurs. Ils sont bien représentés dans les régions rurales, tandis que les partis qui défendent les intérêts des ouvriers sont, eux, défavorisés par le fait que leur électorat se trouve dans les zones urbaines plus peuplées et que ces zones urbaines envoient proportionnellement moins de députés au Reichstag. Les conditions de vote sont également discutables. En théorie, le vote est libre et secret, mais il faudra attendre la réforme électorale de 1903 avant d'avoir des bulletins de vote officiels, des isoloirs et des urnes. Quoi qu'il en soit, le Reichstag, qui ne devait être qu'un organe de façade, devient vite incontournable et la participation aux élections augmente de législature en législature. Alors qu'elle est d'environ 50% aux premières élections de 1871, et cela représente seulement 20% de la population, elle atteint plus de 80% lors des dernières élections du Reichstag en 1912. Andreas Biefang.
On peut voir que le vote est devenu de plus en plus important pour les électeurs. Ils estimaient que participer à l'élection du Reichstag était important pour eux, pour leur vie personnelle. Et c'est parce que le Reichstag décidait beaucoup de choses qui avaient un rapport direct avec leur vie.
Des chiffres de participation à en faire pâlir de jalousie le Bundestag d'aujourd'hui et qui trouvent sans doute leur origine dans la place que le Reichstag occupait dans le quotidien des citoyens de l'Empire. Les sessions étaient en effet enregistrées en sténographie, les discours des députés publiés dans les journaux, un intérêt que confirme Christoph Nonn de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf.
Ce qui était discuté là-bas faisait l'objet de conversations quotidiennes, chez les coiffeurs, sur les marchés, dans les blanchisseries. Les gens parlaient de ce qui avait été débattu au Reichstag.
Alors si aujourd'hui la démocratie parlementaire est une évidence, les débats au sein du Parlement reçoivent beaucoup moins d'attention, ce qui, selon Christoph Nonn, explique peut-être les dérives de certains députés qui, loin des regards, seraient plus tentés de céder à des pressions de la part de lobbies. Allemagne, deuxième partie, on change de continent et d'époque. Plus de la moitié de la population brésilienne est noire ou métisse et elle souffre encore bien souvent de racisme. Conséquence, beaucoup de Brésiliennes se lissaient les cheveux pour répondre à ces modèles de beauté dits européens. Mais cette tendance est en train de changer. L'affirmation d'une identité afro-brésilienne résulte d'une prise de conscience politique qui se traduit aussi dans le soin des cheveux. Ce qu'on appelle ici la transition capillaire, c'est lorsque les femmes et aussi certains hommes valorisent leurs cheveux naturels crépus. Un reportage de Marine Audacher à Sao Paulo.
Pour ceux qui ont toujours vu Laura avec des cheveux lisses et teints, la retrouver quelques mois plus tard avec de jolies boucles noires est une surprise. Elle se dit coquette, d'ailleurs elle est esthéticienne. Elle parcourt la ville de Sao Paulo avec sa table de massage sous le bras, toujours un grand éclat de rire ou un bon mot. Mais à cause d'un dérèglement hormonal, elle a commencé à perdre ses cheveux, déjà fragilisés par des années de traitement chimique, alors qu'elle venait de fêter ses 40 ans.
Mon mari m'a dit, pourquoi tu ne fais pas ta transition? Ça va faire mal, ça va être difficile, tu vas être horrible, mais je vais t'aider. J'ai été bien moche. Il me coupait un peu les pointes tous les 2 mois pour enlever peu à peu les restes de mes lissages. Avant, j'avais les cheveux teints. J'ai laissé aussi mes cheveux blancs occuper le terrain. Et là, vous voyez mes vrais cheveux frisés? Je n'ai plus ces horribles trous sur le crâne. Vous pouvez toucher, ils sont propres et doux.
Eu amo, não amo ainda, mas acordar e...
Est-ce que j'aime mes cheveux? Pas encore, mais c'est vraiment pratique. Je peux me réveiller, m'attacher les cheveux et sortir sans passer des heures à me faire un brushing parce que ça fait plaisir à la société. C'est très pratique. Donc, je les aime un peu plus chaque jour. Un jour, ça sera de l'amour, mais c'est dur.
Mais c'est difficile.
Au-delà de ces boucles soyeuses, Laura a vécu un changement plus profond encore. Elle se voit maintenant comme métisse, alors que sur son acte de naissance, elle a été déclarée comme blanche. Et c'est ainsi qu'elle se déclarait tous les 10 ans lors du recensement au Brésil, blanche.
Você ter o cabelo liso
Avoir les cheveux lisses donne l'impression d'être un peu plus blanc, mais c'est n'importe quoi. Dès qu'on se lave les cheveux, le naturel revient au galop. On vit dans un monde de mensonges. Vous pouvez vous coiffer comme Pocahontas, mais votre couleur ne change pas. Sur mon acte de naissance, il est écrit « blanche ». Mais mon père est noir et ma mère blanche, descendante d'Espagnol. Je ne me vois pas comme blanche. Je dirais même rose pâle. Et ma transition capillaire m'a rapprochée de ce que je suis. À mes yeux, je suis marron. Je suis métisse. Si je naissais aujourd'hui, je mettrais métisse sur mon acte de naissance. C'est ce que je suis.
Si je devais choisir, dans ma certitude, aujourd'hui, je mudaria para parda. Porque é o que eu sou.
À Santa Cecília, un quartier populaire de São Paulo, le salon Meu Cabelo Natural, mes cheveux naturels, est né pour s'occuper de ses cheveux crépus ou frisés, pas seulement, mais c'est sa force aujourd'hui sur le marché, et avec des produits naturels, alors que ses clientes ont passé des années à traiter leurs cheveux avec des produits très chimiques. Alors ici, on est reçu dans une jolie maison de briques pleine de plantes vertes, avec de la lumière, de la musique joyeuse, tout pour se sentir bien. La fondatrice Carla est à l'origine professeure d'histoire. Aujourd'hui, elle est thérapeute capillaire et avec ses cheveux crépus grisonnants, elle parle avec passion des différents types de cheveux crépus d'un point de vue scientifique et de tout ce qu'on peut faire pour en prendre soin.
La transition, c'est retrouver ses racines noires africaines et être ce qu'elle veut. Elle peut se lisser les cheveux de nouveau si elle veut d'ailleurs. La transition capillaire rend ces femmes plus fortes, mais on peut s'occuper de nos cheveux de façon moderne et joyeuse.
Alors ici, les femmes reviennent souvent, plusieurs fois, au cours de la transition qui peut durer plusieurs mois, en général une année, et il y a une certaine complicité qui se tisse entre Sylvia, l'une des coiffeuses, et ses clientes. Cet après-midi, par exemple, elle s'occupe des cheveux de Caroline, une de ses habituées.
Elle avait les cheveux très longs et un jour elle a tout rasé, ça a été radical. Là, je suis en train de lui laver les cheveux, elle aime bien que je la peigne comme ça, sur le côté, avec un peu de gel, et elle a fini.
Caroline a les cheveux très courts, décolorés blond platine, des yeux en amande, un grand sourire et beaucoup d'allure quand elle s'apprête à quitter le salon.
C'est à 32 ans que j'ai découvert mes cheveux. La mémoire de mes vrais cheveux remontait à mon enfance, quand ma mère ou ma grand-mère me coiffait. Et au cours de cette transition, on comprend que nos cheveux sont beaux et forts et qu'ils offrent de multiples possibilités. J'adore changer de coupe, je les ai eus longs, colorés, tressés, rasés d'un côté. Ça me meut de me libérer de cela et d'aimer ce que je vois dans le miroir. Pour moi, ça a été très lié à la découverte de ma négritude. Je suis une femme noire à la peau claire. On m'a toujours vue comme blanche, mais en fait, je n'ai jamais été blanche et j'ai mis du temps avant de me voir comme une femme noire.
D'après Carla, la gérante de ce salon, la pandémie a permis à plus de femmes de se libérer du regard des autres, notamment en entreprise, où parfois il est mieux vu de se lisser les cheveux. Et puis, comme les salons de coiffure sont restés fermés plusieurs mois, comme c'est à nouveau le cas en ce moment, laisser pousser ses cheveux naturellement, c'est parfois imposé comme la seule option possible, avec, bien sûr, de multiples comptes Instagram d'afro-brésiliennes convaincues que pour retrouver ses cheveux crépus, en prendre soin et les aimer, eh bien, on est plus forte à plusieurs. Marino Dacher, à São Paulo, pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Ralf Bosen pour l'histoire du Reichstag. Merci aussi à Marino Dacher pour son reportage sur les cheveux. Et merci à toutes et à tous, bien sûr, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotta-Talon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !